Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un autre épisode de La grosse maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, un nouveau sujet, évidemment, comme à chaque semaine. As-tu déjà essayé ça? Le BDSM. Bien sûr, évidemment, comme je ne peux pas parler d'un sujet tout seul parce que je n'ai pas encore perdu la tête, j'ai un invité. Et je vais poser à mon invité la question qui tue. T'es qui, toi?
It's me, Marjo!
À chaque fois que tu fais ça, j'ai comme une espèce de... Je trouve ça tellement trop. Désolé. Oui, donc, Marjo, j'ai une question pour toi. Peut-être que mon introduction l'a laissé déjà entendre, mais as-tu déjà essayé ça, toi, le BDSM?
Non, jamais fait ça. Non.
Ah, fuck, faut arrêter l'émission.
Ben oui. Ben, en fait, ça, mais oui, j'ai commencé à m'intéresser à ce milieu-là depuis quelques mois. Donc, la raison de ma présence ici aujourd'hui pour vous dire, pour vous parler de mon expérience, mais un peu aussi qu'est-ce que, surtout au niveau débutant, là, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça prend, c'est quoi exactement, puis est-ce que tout, qui peut faire ça?
C'est quoi débuter dans la débutation?
C'est ça.
Comment commencer à commencer? Tu comprends ce que je veux dire?
Ouais,
c'est drôle. Ben, je répète le même mot deux fois. OK, non. Excuse-moi, des fois, mon cerveau, il fonctionne mal. Bref, tout d'abord, est-ce que je peux te demander, c'est quoi qui t'a amené peut-être à t'embarquer là-dedans? Là? Qu'est-ce qui t'a fait comme, ouh, aujourd'hui, là, j'ai le goût de je vais utiliser l'expression que tu as utilisée avant dans une pré-conversation, là. Aujourd'hui, j'ai le goût de me faire mal, là.
Ben, en fait, il faudrait commencer par c'est quoi du BDSM?
Oui, peut-être que oui, il y a des gens qui ne savent peut-être pas. D'accord,
BDSM,
vas-y.
BDSM, c'est l'acronyme Bondage, Domination, Sadomasochisme. Donc, le bondage, la domination, sadomasochisme. Hein, ça se traduit quand même assez bien. Donc, ça fait référence à attacher, se faire attacher, des jeux de domination, soumission, puis faire mal, recevoir de la douleur.
OK.
Un peu. J'ai toujours eu un... Tu sais, j'ai toujours aimé, comme on vous parlait de sexe, là, j'ai toujours aimé le sexe quand même assez rough, assez énergique, si on veut. Tu sais, ça a commencé, c'est comme à peu près tout le monde, c'est-à-dire là, la petite tape ses fesses, se faire tirer un peu les cheveux, les choses ben
simple,
si on veut dire, là. Tu sais, le petit niveau de débutant, là, au niveau vanille, si on veut. Et
tu sais, genre de... On n'est pas vraiment dans le BDSM, mais... Ouh! Ouch!
C'est « Ah, ma petite coquine, tau, 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 tu claques ses fesses. »
Ouais, OK. Coquine. Disent-tu vraiment ça? Y a-tu vraiment quelqu'un qui t'a dit « Hey, ma coquine? »
Ils vont te le dire par message texte, mais ils te le diront pas de vive voix parce qu'ils perdent un peu de leur...
Ouais. Excuse-moi.
Ça perd un peu d'intensité quand c'est dit à voix haute.
Donc, ben, un petit peu parce que je m'imaginais avoir une relation, puis quelqu'un qui me tape ses fesses, puis qui dit « Tiens, mon coquin », puis je serais comme « OK, prends tes clics, puis tes claques, puis va-t'en. » Genre, c'est comme « Je m'excuse, tu viens de finir ça, là. » Ouais, c'est pas la claque ses fesses, le problème, là, c'est le coquin.
C'est ça. Fait que dans le fond, comment ça a commencé, c'est ça, c'est que j'ai toujours eu un certain intérêt. T'sais, si j'allais dans les boutiques érotiques, je regardais beaucoup le matériel qu'il y avait là, mais... Ça prend quand même un partenaire qui est ouvert à ça. Puis j'ai longtemps été dans une relation où que l'autre personne n'était pas intéressée. J'avais pas une sexualité plate ou quoi que ce soit. Non, je me suis quand même épanouie à travers ça. Mais quand la relation s'est terminée, ben j'ai recommencé à avoir d'autres hommes. Puis c'est comme un peu revenu cette espèce d'envie-là. Puis
es-tu en train de dire qu'après avoir laissé un homme, t'as été voir d'autres hommes?
Ouais, je sais, ouais.
Et attends, une femme n'est pas censée être seulement d'un homme jusqu'à la fin de sa vie?
C'est ça qu'ils disent, mais j'ai pas reçu le mémo.
Ah, t'as pas reçu le mémo.
Fait que, tant que je l'aurais pas reçu officiellement,
tant pis.
On va continuer.
Fait que dans le fond, t'as commencé à voir d'autres hommes?
C'est ça. Puis je me souviens qu'il y en a un à un moment donné il m'a choqué, il a mis sa main sur mon cou un peu, pas fort, juste pour dire que ça bloquait un peu. Puis ça, c'est vraiment venu me chercher de faire hey, c'est vrai. J'ai toujours eu ça en dedans de moi, puis je pensais jamais aimer ça, me faire choquer. Pour moi, c'était comme fais tout, mais fais pas ça. Finalement, ça a fait comme oh mon Dieu.
Ça t'a comme surpris, puis oh,
Finalement,
finalement,
ça a
j'aime
l'air
ça.
que j'aime ça. Puis j'ai décidé d'aller explorer un peu plus dans ce monde-là. J'ai parlé avec un dominant, un dôme. Puis lui, il jouait beaucoup plus dans la dégradation. Lui, c'est ça qui l'allumait de tu sais. Il était très respectueux, là. Je veux comprendre qu'il était respectueux, mais lui, ce qu'il cherchait, c'était une soumise, c'était qu'elle allait s'habiller, on va le dire, en salope, puis cheap mascara, cheap make-up, deux lulus, puis t'sais, des choses comme ça. Lui, il était plus là-dedans.
Ce côté-là t'attirait un peu moins, mais quand tu dis dégradation, qu'est-ce que tu veux dire exactement?
Ben souvent, ça va être, t'sais, ils vont t'insulter, ils vont te cracher dessus, ils vont te, t'sais, chacun
OK.
a son niveau, mais il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui aiment ça vivre ça, ils aiment ça, il y a des gens qui aiment ça l'infliger. Au moment où j'étais dans ma vie, où ce que je me sentais, où ce que j'étais en train de perdre le contrôle sur ma vie, que ma relation, ma séparation est encore récente, les problèmes avec le père de ma fille étaient encore comme très vifs, puis je sentais que j'avais besoin de cet abandon-là. Fait que oui, je cherchais ça. Aujourd'hui, j'ai reparlé à ce gars-là, puis parce qu'on s'est jamais vu, finalement, ça n'a pas donné, mais je reparle à ce gars-là, puis ce qu'il a à m'offrir, ça m'intéresse pas du tout parce que moi, je suis passée à autre chose, puis j'ai découvert autre chose à propos de moi. Lui, il est encore là-dedans, parce que ça fait longtemps qu'il fait ça, puis c'est ça qui l'intéresse. Alors,
Mais toi, ce côté-là t'intéresse moins,
non,
tu
c'est
sais.
ça.
Fait que c'est aussi de savoir, dans le fond, comme le BDSM, là, que tu vois, je viens de l'apprendre moi-même, il y a plusieurs comme sections différentes déjà là au BDSM, puis c'est pas parce que tu es dans le BDSM que tu fais tout, genre.
Non, puis il y a des niveaux aussi. Il y a des niveaux de ce que tu vas accepter de recevoir, de donner. C'est pas juste la personne soumise qui a des limites. La personne dominante aussi va en avoir des choses qu'elle ne fera pas, qu'elle ne veut pas infliger parce qu'elle n'est pas à l'aise. C'est important de connaître ces limites-là. Donc, à partir de là, j'ai décidé d'explorer un petit peu plus et j'ai eu la chance de renouer avec un vieil ami, un gars que j'ai daté brièvement il y a au-dessus d'une décennie. Et qui lui venait de récemment se séparer. Et lui en avait fait un petit peu avec son ex. Alors, ils ont un petit peu intégré ça, puis il m'a fait essayer un martinet pour la première fois.
OK.
Pour
C'est
ceux qui
quoi un
savent pas,
martinet?
c'est quoi un martinet? C'est ça ici. Donc, un
Ah, OK.
manche et des lanières de cuir.
C'est comme une espèce de fouet à plusieurs lanières.
Exactement.
Mais en plus petit qu'un fouet, dans le fond. Comme...
Ouais, c'est pas comme un bullwhip ou single-tail qu'on appelle, là, un. C'est pas ça. Mais il y en a de différentes longueurs. Il y en a qui vont faire à peine 12 pouces que, tu sais, c'est ça comme ça. Le manche puis les lanières sont quasiment de la même longueur. Tu l'utilises pas de la même façon. Le principe est le même, mais tu l'utilises pas tout à fait de la même façon et ça inflige pas le même type de douleur sur le corps. Et
OK.
c'est ça. Donc, j'ai comme été un peu intégré à ce milieu-là. Lui, dans le fond, son ex était parti avec quasiment tout le matériel. Fait qu'il se rééquipait tranquillement. Fait que, tu sais, j'ai eu des expériences. Après ça, ben, j'ai brièvement fréquenté un homme qui, lui, en faisait depuis un peu plus longtemps. Lui, il m'a introduit au bondage. Donc,
OK.
vraiment au niveau de la corde, je parle. Parce que le
OK,
bondage,
ça, c'est se faire attacher, là.
c'est ça. L'autre personne d'avant, il m'avait attaché, là. Tu sais, on connaît le typique, les straps qui passent en dessous du lit avec les menottes. Ça, je l'avais vécu. Il y avait la barre d'écartement que j'ai essayé aussi. Donc, tu sais, j'ai quand même essayé plusieurs choses. Mais avec cette deuxième personne-là, là, on a introduit la corde, le fait de me faire attacher dans différentes positions, différents types de cordes, différents types de jeux aussi qu'on peut faire avec ça. Fait que ça, je trouvais ça déjà intéressant, mais j'ai trouvé ça le fun de l'essayer, puis je l'ai vraiment adopté dans ma pratique de que j'aime faire, là.
Mais ça, dans le fond, là, juste pour être sûr, là, on ne parle pas juste, comme tu disais, on ne parle pas juste de menottes en dessous du lit, que ça peut rester aussi, comme ça, il y a beaucoup de gens qui sont même pas dans le BDSM qui font ça aussi, là, c'est comme
Exactement. Ben,
ça.
c'est
On parle vraiment de cordes, là, comme... Moi, la comparaison est peut-être mauvaise, là, mais tu sais, comme on dirait que tu es comme un saucisson, genre, avec la corde, puis C'est comme, ouais, c'est ça, tu sais, dans ta... Faut que tu saches faire des nœuds, tu sais?
Oui, mais c'est pas juste de savoir faire des nœuds, c'est que faut que tu saches faire les bons nœuds, parce que l'idée, c'est de restreindre la personne, mais pas d'empêcher la circulation du sang. Tu fais pas okay. juste passer la corde autour du poignet puis tu serres, non, faut pas que la personne ait, perde de la circulation sanguine dans les mains et tout ça, donc... Les menottes, mettons les vraies menottes de policiers qu'on va retrouver dans les magasins, c'est le fun pour une certaine période de temps, mais ça, c'est très rigide, c'est très difficile, puis ça peut créer à long terme des dommages neurologiques au niveau des mains. Fait à utiliser avec prudence, si on veut. Donc, oui, ça peut faire partie du jeu. Il y en a qui vont aimer ça, les porter longtemps. Moi, personnellement, j'aime ça pour une courte période de temps, mais je préfère que ce soit remplacé par les cordes.
C'est-tu pour ça qu'il y a des gens qui mettent comme la fourrure autour pour que ce soit moins rough, genre? Ou...
C'est pour que ça marque moins, c'est pour pas que ça coupe dans la peau, mais honnêtement, ça rend pas l'expérience tellement plus confortable parce que la petite moumou, c'est là pour faire cute.
Okay.
Elle protège pas grand-chose. Par contre,
elle protège pas vraiment les mains ou quoi que ce soit.
Non, c'est ça. Par contre, les menottes en cuir... ou avec justement une petite fourrure à l'intérieur pour que ce soit plus doux.
Ah, voilà. Comme les menottes dans les hôpitaux des asiles psychiatriques, là.
Ben, ils vendent du matériel pour ça, pour le BDSM. On appelle ça la restriction médicale, là. C'est vraiment, okay. Là, tu bouges pas beaucoup avec ça, tu sais. Mais ça coûte très, très, très cher.
Ouais.
Mais les menottes en cuir, moi, personnellement, je les trouve plus confortables. Elles ont l'avantage d'être faciles et rapides à utiliser, alors que la corde, ça demande... t'as beau être rapide, ça demande quand même une certaine, un certain temps à faire.
Si t'as 20 nœuds à faire pour que ça tienne, tu sais, c'est 20 nœuds. Là, c'est pas...
C'est ça, exactement. Fait que j'ai découvert ça. J'ai aussi un peu repoussé mes limites au niveau de la douleur, de ce que j'aimais, de ce que j'aimais pas recevoir. Ça m'a permis aussi d'explorer un peu comment je réagis. Je veux dire, j'ai pleuré, là. J'ai eu des moments où ça faisait mal, puis je pleurais, mais en même temps, je voulais quand même continuer parce que je trouvais ça extrêmement libérateur. Une fois en particulier où j'ai beaucoup pleuré, je vivais beaucoup de stress dans la vie, beaucoup de choses que j'emmagasinais parce que j'essayais de garder la face pour ma fille, pour ma job, pour ci, pour ça, d'avoir l'air fort. Ben, ce moment-là m'a permis de juste me laisser aller puis de tout laisser sortir. Donc, pour moi, ça a été très libérateur. Je revivrais la même expérience aujourd'hui, je ne réagirais pas de la même façon parce que je ne suis pas dans le même état d'esprit non plus.
Ça a été un exutoire émotionnel qui t'a permis aussi de laisser échapper des émotions, comme tu dis, que tu avais dans la vie. Fait que c'est comme un peu genre les gens là, qui vont, sans vouloir nécessairement comparer, là, mais tu sais, il y a des gens qui vont se faire de l'acupuncture, puis genre qui se mettent à pleurer out of nowhere, genre, puis c'est juste ouais. Parce que les émotions sortent ou whatever. Ben, c'est, ça a comme été ton acupuncture, genre. Façon de parler, là. Je ne veux pas comparer ça. Mais jusqu'à maintenant, tu as parlé beaucoup, tu as commencé surtout en tant que soumise, si je comprends bien.
Oui.
OK.
Exactement. Ce que je me suis découvert, avec on va leur donner des noms, là. Le premier gars, le premier homme avec qui j'ai été, qui m'a vraiment introduit au BDSM, on va l'appeler Carl.
Bon. OK.
Carl. Lui, il pensait qu'il était switch.
OK.
Switch, c'est quelqu'un qui fait domination et soumission.
OK.
Fait que là, il dit, oui, je suis switch, je veux faire les deux, je veux me faire... Puis là, moi aussi, parce que j'aime prendre un peu le contrôle aussi. Fait qu'on a éventuellement inversé les rôles. Ou ce que c'est moi, j'ai dit, je m'en viens chez toi, je veux que tu sois comme ça quand j'arrive, puis tu sais, je vais faire ça, 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 ça. Et éventuellement, ce qui est arrivé, c'est que je lui ai donné une claque dans la face.
OK.
Pas fort, parce que moi, personnellement, le visage, j'y vois comme vraiment prudemment. C'était plus une tape d'avertissement qu'une tape de « je te fais mal ».
OK.
Et ce qu'il me dit, c'est que c'est venu tellement le chercher en dedans de lui, ça l'a enragé en dedans de lui.
Ah oui?
De se faire ça, qu'à ce moment-là, il a fait « non, je ne suis définitivement pas fait pour être soumis, je suis un dominant, absolument ». Fait qu'il m'a quand même laissé terminer, il est resté dans le jeu, mais il a comme compris à quel point c'est pas ça qui l'excite vraiment. C'est vraiment lui d'être
le dominant
dans la relation. C'est ça, exactement. Moi, ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait peut-être quelque chose chez moi qui était sais, plus dominant. Mais je me disais, tu sais, je suis comme 80-20, mettons. 80% soumis, 20% dominant. Je ne l'ai pas trop exploré. Avec le gars suivant, qu'on va appeler Bruno. Bruno, lui, il s'affichait clairement switch avec une légère tendance dominante. Okay. C'est parfait. Moi, j'ai le goût d'explorer ce côté-là de moi, mais je veux quand même vivre l'expérience de soumission parce que c'est ça, à la base, qui m'excite, que j'aime beaucoup.
C'est ça qui t'a embarqué dans l'univers aussi. Fait que c'est ce que tu connais, c'est ce que, comme, ben, que tu connais, que tu as commencé, puis tu es comme « Ouh! »
C'est ça. Et là, tu sais, j'ai eu comme quelques épisodes où je prenais un peu le dessus, pis ça, mais ça ne durait jamais longtemps parce que, tu sais, j'ai dit, on n'avait pas souvent beaucoup de temps, donc c'était des courtes périodes et tout ça. Mais je réalisais à quel point j'aimais ça, le voir lui attaché, lui qui ne peut pas bouger, que c'est lui qui est... Mais j'aimais ça le voir gigoter, j'aimais ça le voir, j'aimais ça beaucoup. Puis, on a eu une session en particulier où j'ai vraiment pris complètement le contrôle du début à la fin. Okay. Où j'ai eu plusieurs stades. Ça a commencé à un endroit, dans une certaine position, après ça, une autre place, dans une autre position. Après ça, ils sont déterminés dans le lit et dans une autre position et tout ça. Et je me suis gâtée, j'ai vraiment fait comme première place, ça va être le torse que je vais... malmené, si on veut. Ensuite, c'était l'autre position, c'était les fesses, le dos. Puis après ça, ben, j'ai fini plus dans le chemin, dans le plaisir, dans les caresses et tout ça. Et j'ai vraiment réalisé à quel point j'aimais ça.
Fait que finalement, ça a fait comme ouh, peut-être plus que 20%. Là.
Je pense que je suis pas mal 50-50. J'ai encore ce besoin-là, cette envie-là d'être dominée, mais j'aime aussi prendre le contrôle et dominer la personne. Et en fait, moi, ce que je m'apparente à la catégorie des brats qu'on appelle. Les okay. brats, c'est une soumise, mais avec l'attitude de merde.
OK.
C'est-à-dire que elle va te tester, elle va te piquer, elle va comme aller chercher parce qu'elle veut te faire fâcher, parce qu'elle veut recevoir la punition. Okay. Et quand elle finit par se faire punir, ben à quelque part, c'est elle qui gagne.
OK.
C'est
okay.
comme une soumise qui veut avoir le dessus sur son dôme.
OK.
Mais ça reste un jeu, on s'entend.
Oui, oui, ça reste un jeu.
Ça reste un jeu.
Mais tu vois, je ne savais même pas qu'il y avait comme plusieurs catégories de soumis à la base. Ouais. J'apprends plein de choses.
Je les connais toutes, non, mais tu vas avoir la brat, tu vas avoir le slave, l'esclave, tu as la relation pet-master, donc genre carrément animal-maître. Okay. Tu vas avoir...
ce que tu parlais tantôt, là, comme l'humiliation, là, vraiment, comme...
C'est ça, tu sais, il y a plusieurs niveaux. Puis après ça, il y en a qui vont faire ça 24/7. Il y en a pour qui c'est un mode de vie. Il y en a pour qui ça se fait de façon ponctuelle. Moi, je suis plus ponctuelle. C'est-à-dire que...
Mais comment tu peux faire ça 24-7? Je veux dire, tu as besoin de travailler dans la vie, là, je veux dire.
Oui, mais c'est à travers ça, ils ont quand même une relation où que si le maître y appelle, tu réponds. Si le maître te dit tu fais ça, tu le fais. Mais il y en a, ça va être carrément, ça va être un couple qui vont avoir cette dynamique-là aussi.
C'est comme un jeu de rôle, genre à vie.
Jamais. C'est ça, exactement. Ils sont, je pense, un petit peu plus rares, mais entre les deux, il y a d'autres choses. Comme moi, j'ai commencé une relation justement avec un soumis, puis on ne s'est pas rencontré encore, malheureusement. On était supposé se voir, puis ça n'a pas donné. Mais c'est, je le sais qu'il a sa vie, je le sais qu'il travaille, je n'insiste pas pour qu'il se rende disponible à des moments où lui, il ne l'est pas, parce que de toute façon, moi, dans ma journée, je ne le suis pas, mais je vais lui dire, tu vois, jusqu'à minuit ce soir pour m'envoyer une photo de ça, pour m'envoyer une vidéo de ça, pour faire ci, pour faire ça. Donc, lui, dans sa journée, il va gérer son temps, mais j'exige de l'avoir avant minuit, parce que sinon, il y a une conséquence.
OK. Donc, ça peut même se faire à distance, dans le fond, la relation maître.
Tu ne peux pas faire ça, selon moi, tu ne peux pas faire ça longtemps à distance. C'est juste que là, en ce moment, il y a 2h30 de route qui nous séparent, donc on ne peut pas faire ça sur la go. S'il vient chez moi, parce que c'est lui qui va brûler du gaz, pas moi, là.
S'il vient mais en chez même temps,
moi, c'est 5 heures, c'est 4-5 heures de voiture aller-retour, ben je ne le ferai pas descendre pour 1 heure ou 2, je vais le faire descendre pour une longue période de temps. Donc, s'il n'est pas disponible pour une longue période de temps, j'exigerais pas qu'il se déplace non plus. Encore là, c'est parce que je suis réaliste. Cette semaine, justement, j'ai eu une discussion avec lui parce que ça faisait deux fois qu'il me donnait pas ce que je lui demandais. J'ai dit, on va se parler, est-ce que je suis trop exigeante? Est-ce que je t'en demande trop? Il me dit, non. Je dis, non. Je comprends moi bien. J'ai eu cette relation-là où c'est moi qui devais fournir quelque chose. Et à un moment donné, j'ai juste fait, je ne peux pas fournir. Je reste que je suis une maman à temps plein. Je travaille à temps plein. Je vais à l'école à temps partiel. J'ai pas le temps dans une journée de commencer à en plus impliquer les obligations que ça pourrait m'amener. Je ne veux pas cette relation-là. J'ai dit, toi, tu as ta vie et je respecte ça. J'ai dit, moi, si je te demande plein de choses puis que tu n'es pas capable de les respecter, c'est pas plus le fun pour toi puis c'est pas plaisant pour moi. Il faut que je connaisse ta limite à toi, de savoir qu'est-ce que tu es capable de fournir. Okay. Parce que sinon, tu fais juste accumuler une punition, mais c'est parce que je te dois 160 coups là, en deux semaines.
C'est intense, là.
C'est intense. Fait que là, je fais, garde, on va calmer le son un petit peu, puis on va... Fait que t'es comme, il va me remercier, il va m'appeler maîtresse, il va, tu sais, il me vouvoie, mais je reste quand même compréhensive de sa réalité. Moi, okay. C'est la relation que j'ai. Il y a d'autres personnes qui vont établir d'autres limites différentes, et c'est correct tant que les limites sont établies dès le départ. Mais... j'adore la relation qui est en train de se créer parce que lui, c'est vraiment, il va venir chez moi puis il va me servir de tabouret.
OK. C'est mais c'est ça aussi la question que je voulais demander. Tu sais, on parle de BDSM, mais c'est pas nécessairement toujours sexuel non plus, j'imagine.
C'est sûr qu'il y a une grosse partie de ça, oui, mais souvent, les gens sont comme, c'est qui fait ça? C'est ceux qui sont dérangés, ceux qui sont pas bien. J'en ai un moment donné, j'ai dit, ben oui, je pratique ça. Puis la question qui a suivi, c'était quoi la relation que tu avais avec ton père? Mais c'est quoi le lien?
Ouais, on va arriver dans les stéréotypes un petit peu plus tard, mais question de merde.
Exactement, puis c'est comme, ben c'est ça, j'ai répondu, ben c'est quoi cette question de merde-là? Genre, mes pratiques sexuelles ne sont pas directement reliées à la relation que j'avais avec mon père.
Exactement. C'est comme si toute femme, genre...
Toute personne.
Oui, mais tu sais, il y a le stéréotype que les femmes recherchent toujours leur père puis recherchent que leur père ne leur a pas donné. Comme, il y a ce stéréotype-là, c'est pour ça que je suis comme...
Mon père ne m'a jamais donné la fessée, c'est pour ça que je le cherche, tu sais.
T'es jalouse de l'enfant, non?
Oui, c'est ça, exactement.
Ouh! Oui, j'allais faire une gag de mauvais goût. Tu l'as entendu dans ta tête, tout est beau, la vie est belle. Mais quand on débute, premièrement, on va commencer avec la soumission parce que, tu sais, quand tu débutes, qu'est-ce que tu as besoin pour commencer la soumission? Autant au niveau matériel qu'au niveau mental, comme préparation, tout ça, genre.
Ben, premièrement, il faut que tu saches c'est quoi tes fantasmes, c'est quoi qui t'attire, c'est quoi que t'aimes. Si tu veux commencer le BDSM comme personne toute seule, comme tu es célibataire et c'est quelque chose qui t'intéresse, ou si tu es un couple qui dit on aimerait ça mettre du piquant, on aimerait ça aller essayer ça. Il y a des tests, il y en a plein là, sur Internet. Là, c'est pas scientifique, rien, mais l'idée c'est que ça te pose des questions. Soit est-ce que ça t'intéresse? Là, tu te dis peut-être. Pas du tout, ou oui, absolument. Fait que t'as tout le temps la catégorie où ce que je veux absolument l'essayer. La catégorie hard no, ça c'est oublie ça, ça sera jamais le cas. Puis l'espèce de variation entre un peu intéressé, vraiment curieuse, mais je le sais pas si je vais aimer ça. Tu sais, y a, c'est pas comme oui, non, neutre. Tu sais, y a quand même un range là-dedans, mais ça te permet d'explorer, de faire comme, OK, bon, ben j'aimerais ça commencer avec ça. Après ça, bon, ben il y a les sites de rencontres, il y a des forums, il y a plein de gens qui font des podcasts là-dessus, il y a des bars qui sont pour le BDSM, qui réunissent des gens qui pratiquent ça. Donc, il y a de la littérature, j'ai pas de livre parce que j'en ai pas lu, puis allez pas lire Fifty Shades of Grey, c'est un roman romancé
sur une espèce de... J'ai lu le premier.
C'est divertissant. c'est une bonne histoire à aller quand tu veux relaxer un samedi pluvieux, c'est correct, mais c'est pas ça, le BDSM, c'est pas
Non.
ça. C'est même pas une relation saine, là, on rentre dans une autre affaire.
Ouais, mais j'ai lu le livre, puis j'étais comme, ah, c'est bon, OK, le livre était pas pire. J'ai écouté le film, je me suis endormi au bout de 15 minutes.
Non, mais la chimie entre les deux personnages n'était pas là, mais en tout cas.
Vraiment pas.
Ça pour dire que ça peut, être un bon, ça peut être un bon livre d'introduction de faire « Est-ce que ça m'excite de lire ce genre de choses-là » ou en dedans de moi, ça fait comme « Non, pas en tout ». À ce moment-là, si oui, c'est quelque chose qui t'intéresse, il y a de la littérature beaucoup plus poussée et beaucoup plus représentative de ce que le BDSM est. Donc, d'aller voir si, encore une fois, c'est quelque chose qui t'excite. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, mais surtout des femmes, qui ont lu Fifty Shades of Grey et qui ont fait comme « Hey, j'aime ça le BDSM ». Puis à leur premier essai, ils ont fait comme « Non, c'est pas ça ». Mais oui, mais c'est parce que dans le livre, c'est comme si Christian Grey, il connaissait déjà les limites d'Anastasia, donc il...
Comme ça, genre.
Il ne dépassait jamais. Puis c'était tout le temps très dans le plaisir. T'sais, il donne 2-3 coups de cravache, puis après ça, il a fait jouer 15 fois. C'est pas ça. C'est pas, moi, selon moi, c'est pas représentatif. Tu comprends que Christian Grey a joué dans le BDSM hard parce qu'il a, t'sais, il a vraiment un donjon très complet, mais dans sa relation avec Anastasia, il va pas beaucoup dans la douleur, il va pas beaucoup dans le bondage, il va pas beaucoup. T'sais, ça reste. C'est comme du BDSM vanille, si on veut. Là.
C'est le côté vraiment soft. Là.
C'est ça, exactement. Mais puis c'est surtout... correct, ça peut être ça ton BDSM à toi. Ça peut être ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le BDSM, ce que ça englobe, c'est pas que ça, c'est beaucoup plus poussé que ça, c'est beaucoup plus technique que ça.
Fait que c'est important de savoir, est-ce que tu veux du gray ou du plus hardcore? C'est important que tu saches qu'est-ce que tu veux dans...
Est-ce que tu veux Christian Grey avant ou après Anastasia?
C'est ça, OK.
C'est ça.
OK.
Fait que c'est ça. Mais c'est important de connaître tes limites. Puis si tu rencontres quelqu'un, parce qu'il y en a, il y en a pas beaucoup, mais il y en a, ils vont dire, bon, ben moi, je suis dominant, je fais ça depuis des années, est-ce que ça te tente d'essayer? À ce moment-là, c'est important que tu le dises. Ben, je suis nouvelle, je suis ci, je suis ça. Il y a ça qui m'intéresse. Il y a des questionnaires, encore une fois, des questionnaires que tu peux remplir, que tu peux lui remettre en disant, écoute, moi, c'est ça mes limites, c'est ça.
Fait que d'être clair avec la personne qui va te dominer de où est-ce que tu es, parce que c'est ce que la personne va utiliser pour te dominer, dans le fond.
Oui, c'est ça. Après ça, s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, s'il y a quelque chose que tu aimes, tu peux en discuter, tu peux le rajouter, tu peux le faire comme finalement, je pensais que j'aimais ça, mais j'aime moins ça que je pensais. Donc, il y a quelque chose à ajuster là. Ça, c'est si tu es plus tout seul. Si tu veux le faire en couple, tu veux mettre du piquant et tout ça, à ce moment-là, encore une fois, vous pouvez aller remplir des tests sur Internet, vous pouvez remplir les tests, imprimer les tests papier, oui, non, peut-être, et les lire mutuellement ou ensemble, ou juste lire le test à voix haute ensemble, puis discuter de la question.
Qu'est-ce qui est mutuel, qu'est-ce qui n'est pas mutuel?
Les moins, tu sais, OK, peut-être que toi, ça ne t'intéresse pas de recevoir ça, mais peut-être que l'autre, oui, puis toi, ça ne te dérangerait pas d'y donner, tu sais, des choses comme ça. Donc, à ce moment-là, c'est d'ouvrir la conversation. Évidemment, bon, ils vendent du matériel dans les boutiques érotiques, de plus en plus d'ailleurs, mais le meilleur ami du BDSM débutant, selon moi, c'est la quincaillerie.
Corde!
Non, non, mais c'est sûr que...
Non!
C'est sûr que si tu commences, tu veux t'acheter, mettons, des outils de base, c'est-à-dire, mettons, une cravache, un martinet, des trucs pour attacher... Cravate Martinet, tu peux trouver ça sur Amazon pour 30-40 $, mettons. Puis même les cravages dans les magasins ne coûtent pas excessivement cher.
C'est sûr que si tu vas sur AliExpress, tu peux en trouver à 5$.
Etsy, AliExpress, tu sais, toutes ces choses-là.
Juste pour te dire, parce que sur AliExpress, là, tu peux acheter des godemichets ou des vibrateurs pour 2$.
Il y en a. Mais c'est parce que les jouets érotiques vont rentrer là-dedans aussi. Moi, j'en ai, là. J'en ai des jouets, puis ça fait partie de ma sexualité. Même quand il n'y a pas de BDSM inclus, pour moi, ça fait partie de ça. Donc, tu peux en profiter pour acheter des vibrateurs, des choses comme ça. Si tu peux te permettre d'être un peu plus cheap quand tu commences sur tes outils BDSM, je te dirais dans tes sextoys, sois pas cheap. Parce que c'est quelque chose que tu mets à l'intérieur de toi.
moi qui viens de parler d'AliExpress, tu sais.
Okay. Non, mais tu peux avoir de la qualité pour pas cher, mais achète de la qualité.
Ouais.
Essaye de trouver des deals. Absolument, essaye de trouver des deals. Mais
avoir la même mentalité que j'ai pour mes cafetières ou pour les affaires que j'achète pour chez nous. Je n'ai pas les moyens d'acheter cheap.
Il y a des choses que tu n'as pas besoin de dépenser énormément d'argent. Il y a des jouets de qualité qui se vendent qui ne sont pas aussi chers que l'autre jouet parce que c'est une marque plus connue. Les exemples, je vais donner les Wii Vibe, ils font d'excellents produits, c'est de la qualité, mais tu peux avoir des jouets qui ressemblent à ça, que tu vas avoir la même qualité, la même expérience, mais qui vont être la moitié du prix.
Okay.
Donc, il y a moyen de balancer là-dedans, mais si tu es vendu Wii Vibe puis que tu joues que par le Wii Vibe puis que tu es prêt à dépenser le montant Wii Vibe, vas-y, mais surtout si tu commences et tu ne sais pas ce que tu aimes, tu es capable d'avoir des jouets de qualité qui vont coûter un peu beaucoup moins cher.
OK.
Mais tu sais, je vais te donner un exemple.
Ça, c'est comment? C'est une palette? C'est comme ça que j'appelle ça.
C'est une planche à découper du pain que j'ai achetée chez Think Kitchen. Je pense qu'elle était 15$ avec le couteau.
OK. Mais fait que ça remplace un...
C'est un paddle. C'est un paddle okay. de bois. Donc, OK. Est-ce qu'il
résiste? J'avoue qu'elle ressemble à un paddle, c'est vrai.
Mais c'est ça, c'est un paddle, c'est une palette. Est-ce que c'est assez résistant pour vraiment donner des coups super forts? Non, probablement pas. Est-ce que je donne des coups super forts? Non. T'sais, parce que ça rentre quand même au poste. Si j'ai un partenaire à un moment donné qui aime vraiment, vraiment ça, ben je vais probablement acheter quelque chose de meilleure qualité qui va être plus résistant. C'est sûr. Mais en ce moment, ça, pour moi...
T'es encore débutante aussi, tu sais.
Encore débutante, ça fait l'affaire, je l'ai expérimenté, ça donne des bons coups, ça fait un bon bruit, parce qu'il y a ça aussi qui était intéressant quand
l'effet sonore.
Vient avec. J'avais pas envie de payer cher pour quelque chose qui sert pas si souvent que ça non plus.
Est-ce que tu as besoin de plus de matériel si tu es dominant que si tu es soumis?
Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Souvent, les dominants, les gens qui sont dominants puis qui aiment ça, vont se procurer les produits qu'ils aiment utiliser pour dominer quelqu'un. Toi, comme soumis, si tu dis « Ah, moi, j'aime ça », puis que tu l'as puis l'autre l'a pas, ben amène-le avec toi ou, tu sais, procure-toi-le. À un moment donné, ça vient que ça s'équilibre.
OK.
Tu sais, j'ai acheté un martinet récemment parce que j'en avais pas, mais Carl puis Bruno, les deux en avaient un.
OK.
Parce que j'avais pas eu besoin d'en acheter jusque-là parce que c'était les deux seuls qui l'utilisaient. Je l'utilisais comme quand j'allais avec eux. Là, aujourd'hui, que je me permets d'avoir plusieurs partenaires en même temps, ben j'en veux un pour que lui puisse l'utiliser sur moi et moi sur lui. Donc, il est à moi. Mais si je vais chez Carl, ben j'ai pas besoin
de l'amener.
De l'amener parce qu'il a acheté le même que moi. On est allé magasiner okay. ensemble et on a acheté les deux le même. Mais encore là, celui-là, je pense qu'il m'a coûté 40-50$.
OK.
J'en avais un à 200$ en cuir, puis je l'ai testé dans le magasin, puis l'expérience n'est pas la même, là. C'est pas la même qualité, là. On est
comme les lanières n'auront pas le même effet.
C'est vrai, cuir, souple et tout ça, puis vraiment, le feeling est incroyable. J'avais pas 200$ à mettre sur un martinet. Peut-être un jour.
Mais je sais aussi qu'il y en a maintenant que... le bout des trucs sont électrifiés aussi, genre?
Il y en a, oui, ça, c'est ça coûte cher, puis ça se commande, c'est surtout aux États-Unis, je pense qu'on les trouve encore, là. Stockroom, le site, c'est Stockroom. Ils ont des kits complets. Moi, je vais l'emprunter à on sait qui, avant oui. d'acheter 400$ pour oui. cette affaire-là. Je vais l'essayer. Mais tu vois, comme moi, ça ne m'intéresse pas de subir l'électricité. Je suis moins... Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de gars, beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes qui veulent, qui aiment ça. Fait que je suis comme, bon, ben ça serait intéressant de l'avoir moi comme outil. Si toi, tu l'as, moi, je l'utilise pas. Mais si tu veux que j'utilise sur toi, par exemple, j'ai pas
le temps. Là, t'es plus motivé.
Je vais le faire. T'sais.
Mais mon ex-conjoint, il a déjà travaillé dans un sex shop homosexuel qui s'appelle Priap.
Ouais, je suis allée.
Oh, oui.
Je pense que c'est là que j'ai acheté ça.
Mais lui, il travaillait pour les trucs... Comment ça s'appelle, ça? Une cravache? C'est ça, une cravache?
C'est une cravache, mais c'est une cravache double.
OK. Mais il travaillait là, mais lui, il travaillait comme à l'expédition Internet, genre. Et des fois, ils n'ont pas les mêmes produits en ligne qu'ils ont en magasin, tout ça. Mais les produits qu'il me décrivait, là, qui étaient électriques, là, moi, à toutes les fois, ma réaction, c'était comme... Il y avait même un truc que tu rentrais comme dans l'urètre, comme ça, bâton, puis tu donnais des chocs au pénis après, là, c'était comme... Ouais. Non. Tu sais, mais... comme... moi, personnellement, je pense que je suis vanille, je vais l'avouer tout de suite. Je pense que je suis très vanille, parce que même tu parlais comme, tu sais, la personne qui se faisait humilier tantôt, puis tu as juste parlé de crachat, puis moi, déjà, à la base, tu sais, des fois, il y a des hommes, quand ils vont faire une fellation, ils vont comme... Puis moi, ça me dégoûte, là. C'est comme, c'est le bruit, je suis pas capable, genre. C'est comme, fait que même ça, je suis pas capable, fait que je suis comme, comme ça va mal, mon enfant.
Toi, ça vient pas te chercher. Puis ce que je remarque beaucoup, puis j'embarque là-dedans aussi, c'est que on a tous chacun nos limites. Puis quand on rencontre quelqu'un que ses limites sont vraiment beaucoup au-dessus des nôtres, pas juste un peu, mais comme beaucoup. Justement, le gars à qui j'ai dit « Je fais du BDSM, c'est quoi ta relation avec ton père? » Clairement, il a jugé.
Oui.
Il a jugé en faisant comme « Ben voyons donc, clairement, il n'est pas bien dans sa tête. Il y a quelque chose pour que quelqu'un veuille vivre ça, puis tout ça. » Et moi, j'ai ma limite, mettons, ici. Mais la personne que sa limite est là, moi, dans ma tête, je vais faire comme « Ben voyons donc, t'es malade. Qu'est-ce que c'est ça? Puis t'es pas bien. » Puis en même temps, je me dis... La personne qui est ici, elle pense la même chose de moi, puis moi, je suis comme, ben non, c'est normal. Fait que la personne qui est ici...
Qui est de l'autre bord, oui.
Que moi, je dis ça, ben elle a dit, ben non, c'est normal. Tu sais, on va parler de scatophilie, on va se le dire, toi puis moi, on est comme arc, 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 arc.
Pour ceux qui ne savent pas, allez googler, vous allez aimer ça.
La personne qui aime ça, elle se fait, ben moi, j'aime ça. Mm. C'est comme ça, puis tu sais, je vais m'assumer là-dedans, puis c'est... Puis en même temps, je suis comme, ben parfait. Trouve quelqu'un qui va triper autant que toi. Parle-moi-en juste pas.
Ça sera pas moi, puis je veux pas savoir. Je veux pas
parler, tu sais. Les gens sont un peu plus open sur le golden shower, là.
Mm-hmm.
Qui consiste à se faire uriner dessus ou uriner sur quelqu'un. Les gens sont un peu plus ouverts sur la discussion de là-dessus. Je me suis fait demander... de le faire ou si j'acceptais de recevoir, ça, pour moi aussi, c'est un hard no, tu sais. Je te parle pas qu'on prend une douche ensemble puis que tu pisses dans la douche puis que j'en sois un peu ses pieds, là. Je veux dire, OK, je suis capable de vivre avec ça, là. Mais de faire comme on est dans un jeu érotique et tu me pisses dessus, non, non. Non.
C'est, je me suis déjà fait demander ça, genre, par quelqu'un, genre, veux-tu m'uriner dessus? Puis j'ai fait, non.
Non. Puis je suis comme, je vais respecter que toi que t'aimes ça, moi, je touche pas à ça. Je ne vais pas là. Fait que même moi qui découvre un monde où que le jugement est très facile,
mm-hmm.
Faut que je me dise en dedans de moi, Marjo, juge pas ces gens-là parce que.
Toi, tu vas te faire juger sur d'autres choses par des gens plus vanillés. Exactement.
Fait que c'est pas ma place d'aller juger quelqu'un. C'est juste que moi, c'est pas ma limite à moi. Je me suis fait demander par un gars de mettre des bobettes puis d'y péter dans la face.
Je sais que je devrais pas rire, mais c'est juste parce que...
Mais j'ai ri. Il me l'a demandé par message texte. J'ai lu le message et je pense que mes voisins ont pensé que j'étais en train de mourir parce que je riais tellement que je m'en étouffais et je toussais et je trouvais ça absolument drôle. Mais à aucun moment je l'ai jugé parce que j'ai fait « Toi, t'es assez open et assez à l'aise pour me confier que c'est ça ton fantasme. » Moi, je vais te répondre « Non, je le ferai pas. » Mais c'est correct si c'est ça que tu veux. Juste, trouve quelqu'un d'autre pour aller chercher ce fantasme-là. Moi, je suis pas à l'aise. Surtout que, on va se dire, je risque de te tuer.
Mais tu sais, moi, à la base, je fais offrir ça. Je l'offre gratuitement à tout le monde. Au nombre de fois où je pète comme ouais. En public ou quand mes amis sont à la maison. Moi, je vous donne ça gratuitement de même. Là. Je veux dire, comme, allez-y, sentez mes fêtes.
Ça. Fait que pour en revenir à la question originale, pour en revenir à la question originale qui est comme qu'est-ce que ça te prend pour commencer? Encore là, on reparle de la discussion de qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui t'intéresse pas. Personnellement, oui. Justement, à travers ça, qu'est-ce qui t'intéresse? Moi, ma corde, c'est de la corde à 20 $ pour 100 pieds chez Rona.
OK.
Il y a de la corde de bondage qui se vend, qui est d'extrêmement bonne qualité, puis qui peut avoir des belles couleurs, puis que ça peut être super intéressant. Et je vais m'en procurer éventuellement. En ce moment, j'apprends encore à maîtriser les nœuds, maîtriser cet art-là, parce que moi, je trouve que c'est du shibari qu'on appelle, là. Je trouve que c'est vraiment un art. D'être capable de faire carrément là, des bas, des soutes en corde. On rentre dans de la suspension aussi. Là, des gens qui vont carrément se faire suspendre avec la corde. Ils vont utiliser les cheveux, les mains, tout. Je trouve ça extrêmement beau à voir. Et je veux me rendre à ce niveau-là. En ce moment, ça ne me sert à rien d'acheter un lot de corde de 50 pieds à 70 $.
Oui. OK, oui.
Je ne maîtrise pas ça. Fait que j'ai acheté de la petite corde simple. Est-ce que je ferais de la suspension avec cette corde-là? Absolument pas. C'est pas fait pour ça. C'est une corde quand même relativement cheap, si on veut. Mais ça me permet d'expérimenter des choses.
De tester tes nœuds, de tester les positions, de qu'est-ce qui est trop serré, qu'est-ce qui n'est pas trop serré.
C'est ça. D'apprendre parce que dans le fond, c'est un peu tout le temps le même nœud qui revient, qui est un nœud qui bloque. C'est-à-dire que si tu serres, ça ne va pas serrer la corde avant, ça va juste serrer le nœud.
OK.
Ça ne va pas tirer, ça ne va pas...
mettons que ça ne va pas devenir plus intense sur le point.
Ça ne va pas devenir plus serré autour, c'est juste le nœud qui va serrer éventuellement. Okay. Donc, ce nœud-là, de comprendre comment tu peux le manipuler pour faire différentes choses. Il y a plein de vidéos sur Internet, plein de vidéos sur YouTube. Ça peut être quelque chose qui est très, très érotique qu'on peut faire avec un partenaire, donc ton chum, ta blonde, n'importe qui entre les deux. Tu vas acheter comme un lot de cordes de 100 pieds, tu le coupes en deux, tu te fais une corde de 50, puis deux cordes de 25, puis c'est tout le temps plié en deux, ces cordes-là. Hein?
OK.
Fait que ça te donne un 25 pieds, puis deux 12,5 pieds. Bon, mais t'es capable de faire quelque chose d'intéressant au niveau des poignets, au niveau des chevilles, au niveau du torse, au niveau, tu sais, mettons, faire une ceinture au niveau des hanches. Tu vas sur Internet, tu prends un petit verre de vin, tu jases en même temps, tu pratiques, tu ris. Donc, ça peut être quelque chose, ça peut être une expérience. Il offre des cours aussi que tu peux suivre, carrément des formations de shibari. En ce moment, avec la pandémie, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais il les offre quand même. Ça peut être des cours Internet, probablement, des choses comme ça. Donc, ça peut être une expérience sans rentrer dans le sadomasochisme, sans rentrer dans le jeu de domination-soumission. Ça peut être quelque chose qui va apporter quelque chose de nouveau dans la chambre à coucher. Avec ça, ben, comme je dis, regarde, moi, j'ai ma petite paddle que j'ai achetée chez Think Kitchen, qui est une planche à découper là, qui ne coûte pas vraiment cher. Tu peux aller acheter quelques accessoires. Ma première cravache ici, je l'ai achetée sur Amazon. Je pense qu'elle n'a même pas coûté 20 $. Est-ce que c'est de la qualité? Non. Est-ce qu'elle va vraiment frapper fort? Absolument pas. Fait que si tu veux découvrir tes limites, c'est une belle façon de commencer de est-ce que j'aime ça, est-ce que j'aime pas ça, sans aller trop loin. Là-dedans.
Et le niveau de douleur que tu es capable aussi d'endurer et que tu trouves agréable au final. Là.
Oui, puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette résistance-là, dans la même session, va augmenter. Là, on rentre dans un autre domaine où on va parler des endorphines, c'est-à-dire que si tu commences tout de suite et que tu tapes trop fort tout de suite en partant, ce que ça va faire, c'est que le corps va se mettre à sécréter de l'adrénaline. Puis l'adrénaline, tu veux pas ça dans ton BDSM, tu veux pas ça dans ta session parce que ça va te rendre plus nerveux, plus stressé au niveau de la douleur. Tu vas être comme sur un état de stress. Tu veux aller chercher l'endorphine, qui est l'hormone de gestion de la douleur. Tu en as tout le temps dans ton corps. Quand tu commences à taper comme juste un peu, pas assez pour créer une douleur, mais pas assez pour créer un stress, ton corps va sécréter son endorphine. Là, ce que je vais dire là, c'est ce que j'ai lu, mais je commence mes recherches sur ce domaine-là. Okay? Mais il y a beaucoup de dômes qui jouent avec beaucoup, beaucoup d'instruments de torture qui vont jouer avec les endorphines parce que ça permet de repousser cette limite-là très rapidement.
Okay.
Ce que ça te disait, c'est que, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, ton corps va sécréter ta réserve d'endorphine que tu as. Après ça, ça prend 10 minutes reconstruire, resécréter l'endorphine. Fait que pendant ces 10 minutes-là, il ne faut pas que tu tapes trop fort, juste assez pour maintenir la sécrétion, la production d'endorphine qui va se
que ça se continue, là?
Après 10 minutes, ta réserve est pleine. Donc là, tu vas frapper fort. Toujours avec une certaine réserve parce qu'il faut que tu construises ça. Et là, le corps va relâcher l'endorphine pendant à peu près 5 minutes. va relâcher ce qu'il vient de faire. Après ça, ça recommence un autre 10 minutes où ce que, il va reproduire l'endorphine. Donc, tu continues un peu moins fort. Là, whoop, on arrive au bout de 10 minutes, 5 minutes où ce que c'est plus intense. Mais à chaque fois, tu y vas plus fort, plus fort, plus fort. Fait qu'au bout d'une heure, tu es tellement high. Ça crée vraiment un high. Tu as l'impression d'être endormi. Tu peux, écoute, je ne l'ai pas vécu souvent, puis je ne l'ai pas vécu à grande échelle, mais c'est que tu viens où ce que tu sens la douleur, tu sens le coup, mais tu es juste comme. T'es comme dans un état second. Tu rentres dans un état qui est méditatif. Je ne me souviens plus comment il l'appelle, là, mais c'est comme le subspace. Là. C'est okay. Un état vraiment méditatif où ce que, tu sens la douleur. Tu la ressens, même qu'à un certain moment, ton corps va carrément réagir, mais le niveau de douleur que tu vas ressentir versus la douleur qui t'est infligée.
C'est pas vraiment relié, c'est pas la même chose.
C'est ça, mais ça vient vraiment chercher quelque chose, puis c'est comme je disais tantôt, moi, ça a été très libérateur à ce moment-là de vivre ça. Il y en a qui vont carrément aimer la douleur intense, ils vont vouloir tout de suite du fort, du ci, du ça. Ça, c'est, encore une fois, c'est selon leurs limites, mais il y a plusieurs façons de travailler ça. Moi, j'aimerais ça le vivre vraiment intensément, ce feeling-là, puis j'aimerais ça être capable de le donner aussi à d'autres personnes, mais ça va être un travail...
C'est à l'excalation, genre, dans le...
Ça va être un travail de pas de essai-erreur, mais c'est de trouver un partenaire steady qui va embarquer là-dedans, puis qui va te laisser, puis qui va te parler, puis qui va communiquer après ça, comment tu sais, comme, ah, tu sais, à tel moment, il aurait fallu que tu fasses ci, que tu fasses ça. Donc, c'est hyper important, mais... Tu veux commencer le BDSM, le bondage, c'est une bonne façon de commencer. Parce que souvent, le BDSM inclut beaucoup, beaucoup de bondage. Donc, savoir est-ce que tu aimes te faire attacher ou au contraire, ça te crée de l'anxiété. Est-ce qu'il y a plusieurs façons d'arrêter? On parlait de la spread, de la spread bar, la barre d'écartement. C'est quand même coûteux. Là. C'est au-dessus de 100 $. Puis c'est une barre qui fait un mètre et demi de long. Elle est le fun, elle est pratique parce qu'elle peut se déplacer. Fait que, tu peux l'amener dans le salon, tu peux l'amener comme un peu partout. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que je me suis acheté une chaîne. Je me suis acheté une chaîne au Rona, une chaîne normale. Puis j'ai un binder. Tu sais, les binders cric-cric là, pour attacher des affaires sur le top de ton char.
Oui, oui, oui.
Bon, je passe la chaîne sur le matelas, je passe le binder en dessous, puis je crank.
Ah!
C'est une chaîne qui fait la largeur complète de mon lit. Je peux attacher des pieds, je peux attacher des chevilles, je peux attacher le cou, je peux. Tu peux la mettre à la hauteur que tu veux sur le lit, tu peux en avoir plusieurs, tu peux t'en faire comme un quadrilatère, fait 1, 2, 3, 4. Tu mets la personne au milieu de ça. Bon, mais tu peux attacher une main en haut, une main sur le côté, les pieds ensemble, pas ensemble. Tu peux attacher le cou, tu peux attacher au niveau des hanches, puis de l'attacher de l'autre côté que la personne peut bouger. La chaîne m'a coûté quoi? 10 $? Un kit de binder, t'en as 4 pour 25 $. T'as pas besoin du binder que tu peux tirer 3000 tonnes avec, là. T'attaches quelqu'un, là.
Tu veux pas le couper en deux non plus, t'sais.
Non, mais tu sais, tu peux aller chez Walmart, pogner un petit kit à 25$ de binder. L'idée, c'est juste que ça tient puis ça bouge pas. Donc, t'as pas besoin de te coûter cher pour commencer, puis tu peux l'essayer. Puis après ça, tu peux aller... Tu peux aller dans des magasins spécialisés puis aller chercher des choses un peu plus poussées, un peu plus techniques que tu n'es pas capable de fabriquer. Mais j'avais fabriqué un fouet avec 3 bâtons de bois puis du tape électrique. Je l'ai cassé parce que j'ai tapé trop fort avec. Puis le tape, j'avais mis du tape, entre autres, parce que le look était là, mais aussi parce que je savais que si le bâton cassait, il n'y aurait pas d'éclat de bois.
OK.
Fait que, tu sais, il a cassé puis il est resté quand même en un morceau.
Pour pas blesser gravement non plus.
Là. Mon but, c'est pas de le blesser de façon permanente. Le but, c'était d'utiliser l'outil. Puis le travail que ça a fait, c'était sur son torse. C'était tout en V comme ça, avec les lanières. Je regarde encore la photo que j'ai prise aujourd'hui. Puis ça m'excite parce que je me souviens de la session, mais je trouve que le design que j'ai fait sur son torse était fantastique. Là. Je trouve ça beau à regarder. Puis. Je me dis, je vais m'en refaire un, mais je vais aller chercher des tiges de fibre de verre probablement à la place. Tu sais. Okay. Fait qu'il y a moyen, avec de l'imagination, de créer tes propres
outils. Tes propres outils.
Tes propres choses. Puis après ça, il y a les sextoys qui rentrent, mais ce qui est vraiment super important, c'est que tu connaisses tes limites, et que tu les fasses respecter. Parce que dans n'importe quel domaine, que ce soit dans des relations vanilles ou dans des relations BDSM, dans des relations de travail, des relations familiales, s'il n'y a pas de respect,
ça marchera pas. Ça ne sera pas une relation saine.
Non, sauf que si tu dis, ben gars, moi j'ai le goût d'un one night, tu fais venir un gars que tu t'en. Puis que l'autre, il s'en aussi, puis que c'est juste un ting-tao, le gars, il arrive, il fait, le gars, la fille, fait son affaire, il repart. La notion de respect, elle est là, puis elle n'est pas là, parce que c'était ça, puis c'est fini là. Quand tu mets littéralement ta vie entre les mains de quelqu'un, puis je parle de ta vie, je veux dire, la personne va te fouetter, la personne va t'attacher, la personne peut. Une fois que tu es attaché, tu es vulnérable, là. Il faut que cette personne-là ait du respect pour toi et que toi, t'en aies pour l'autre.
Il faut que tu aies une confiance aussi, là.
Ben, il faut que tu aies confiance en la personne qui te domine, qu'elle va respecter tes limites. Il faut que tu aies confiance qu'elle va être à l'écoute aussi. Mais il faut que ton dominant ait confiance en toi de dire que tu ne laisseras pas ton ego. Parce que c'est facile à un moment donné de dire « Ah, oh, je suis capable d'en prendre, je suis capable d'en prendre. Oh, ça fait mal, je ne suis plus capable, mais je suis capable d'en prendre. » De laisser ton ego puis ton orgueil prendre le dessus. Mais à un moment donné, ce n'est pas ça le but. Le but, ce n'est pas de prouver à l'autre, ni même à toi-même que tu es capable d'en prendre plus. C'est d'être à l'écoute de ton corps puis d'accepter qu'à un moment donné, tu as atteint une limite et que tu ne devrais pas la dépasser. Tu veux repousser tes limites, mais jusqu'à une certaine limite. À un moment donné, tu n'es plus capable, tu dois le dire. Donc, ton dominant doit avoir confiance que tu es capable d'être à l'écoute de toi-même.
Parce que lui, il ne peut pas deviner non plus nécessairement.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, on parle dominant-soumis, on parle du dominant comme si c'est lui qui avait le contrôle, mais en réalité, c'est complètement l'inverse. C'est le soumis qui donne le contrôle, mais c'est lui qui décide quand ça commence et quand ça se termine. Si le soumis dit « je ne suis plus capable, je veux qu'on arrête complètement », c'est ça qui arrive, c'est ça qui décide. C'est juste qu'en donnant ce contrôle-là à quelqu'un d'autre, toi, tu peux arrêter de réfléchir et tu fais juste profiter du moment.
Est-ce que le stéréotype du « safe word », c'est vrai ou c'est plus dans le cas où « non, si je te dis c'est trop, tu y vas arrêter quand même », ou des fois, est-ce que ça ne peut pas faire partie du jeu, justement, là, de dire « Ah non, c'est trop, mais dans le fond, c'est pas vraiment trop. » C'est comme ça fait partie du...
Ça m'est déjà arrivé où ce que j'ai crié « Arrête, ça fait mal! » Et la personne a arrêté, puis j'ai fait « Qu'est-ce que tu fais? » « Mais tu m'as dit d'arrêter. » « Ouais, mais c'est pas ça les mots pour que tu arrêtes. » Ça sort tout seul. J'étais proche d'utiliser mon safe point pour dire arrête, puis c'est le genre de signal que tu peux interpréter comme un OK, attention, t'approches de la limite, mais ça veut pas dire arrête.
OK.
Oui, dans certains cas, quand tu connais bien la personne, quand tu as une certaine relation, que tu sais que l'autre aime ça quand tu supplies d'arrêter. C'est pour ça qu'on utilise un safe word, c'est pour que le mot arrête, non, je veux pas, devienne pas un arrêt instantané parce que c'est ça le jeu.
OK. Parce que ça fait partie du jeu, justement, des fois, de dire ces mots-là, genre.
Exactement. Ou des fois, le mot « arrête » va sortir tout seul, mais tu n'es pas prêt à arrêter encore parce que tu veux continuer. Puis encore là, c'est que tu vas avoir, tu sais, le classique, ça va être vert, jaune, rouge. Ça, c'est le typique. Vert, c'est OK, c'est beau. Jaune, c'est tu es proche ou tu as atteint ma limite. Et rouge, ça veut dire on arrête.
OK.
Donc, moi, c'est ketchup patate. Ketchup.
Excuse.
Moi, je sais. Ketchup, ça veut dire tu as atteint ma limite, arrête ce que tu fais là, mais on n'arrête pas le jeu. Ça veut dire que là, ça fait trop longtemps que tu me fouettes à cet endroit-là et j'ai besoin d'un break. Donc, change de place, donne-moi des caresses, donne-moi un break, mais je veux rester
dans
le moment. Patate, c'est tu me détaches, tu arrêtes de. Tu ne me touches pas, tu sais. On arrête le jeu est terminé.
OK.
C'est arrivé une fois où ce que le jeu s'est terminé. J'ai même pas eu à dire patate parce que la personne a vraiment dépassé la limite que j'avais imposée. Et il l'a vu tout de suite dans ma face, que c'était comme non, ça n'a pas passé. Puis ça s'est terminé là. J'ai pas eu à l'utiliser parce qu'il l'a vu tout de suite que.
Il avait été trop loin.
J'avais pas de plaisir là-dedans. Mais sinon, oui, j'ai utilisé souvent le mot ketchup, puis c'est ça, c'est qu'on changeait on changeait d'approche, on changeait de tactique. Tu peux arrêter de fouetter, de taper, de ci, de ça, mais tu peux aller comme de l'autre côté, puis aller parler, puis aller comme tirer les cheveux, puis je vais tolérer un certain niveau d'insulte aussi. Là. Je veux dire, ça peut faire partie du jeu aussi là-dedans. Donc,
C'est quoi les stéréotypes un petit peu là, sur le BDSM que tu es comme... Toi qui vas te faire dire automatiquement que cette personne-là n'a aucune idée de c'est quoi le BDSM.
Que les dominants, c'est tout du monde contrôlant.
OK.
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Faut que t'aimes avoir un certain contrôle pour faire ça, mais je veux dire... Puis de dire que les soumis, c'est tout du monde...
Faible.
Au contraire, faut être fait fort en mot à dit pour être capable d'en encaisser. Puis souvent, ce que les gens comprennent pas, c'est que dans le contexte où justement tu te sens comme si tu avais besoin de te laisser aller, pas de perdre le contrôle, mais de ne plus avoir le contrôle. Donc souvent, les gens qui ont des vies très chargées, des dirigeants d'entreprise, même des parents qui ont beaucoup d'enfants, qui ou même pas beaucoup d'enfants, là, mais je veux dire, tu sais, quand tu gères l'épicerie, ta job, les enfants, les activités parascolaires, le ménage, tu viens à un moment donné, tu es comme, je peux-tu juste arrêter de gérer quelque chose 2 secondes, tu sais? Y a-tu quelqu'un qui peut me gérer à ma place? Et c'est là que tu vas rentrer dans le jeu où que ça peut devenir intéressant, sans qu'on rentre dans la punition, sans qu'on rentre dans la flagellation, sans qu'on rentre dans ces choses-là, c'est de se dire c'est quelqu'un d'autre qui prend le contrôle et tu donnes ce contrôle-là à quelqu'un. Donc, ça peut être, mettons, moi, ça va être, OK, tu rentres chez moi, tu descends, parce que j'en ai demi sous-sol, tu rentres chez moi, tu descends. Puis là, ils vont me dire, OK, ben tu vas m'attendre comme ça, dans cette position-là, puis ça. Puis à partir du moment où ils rentrent et que je suis déjà en position, ben le jeu commence là, parce que c'est là que je le mets.
OK.
Parfait, ça va être comme ça, parfait. Ben, c'est lui qui va me dire, tu vas te coucher dans le lit, ou ben tu vas te mettre debout, ben tu vas faire ci. Je n'ai pas le contrôle sur la situation. Je n'ai pas perdu le contrôle. Je lui donne le contrôle. Donc, de rentrer là-dedans, il y en a beaucoup qui vont avoir ce fantasme de, tu sais, le fantasme du viol.
Oui.
Ce fantasme-là vient d'un désir de justement ne pas être en contrôle.
OK.
Tu peux vivre ce fantasme-là, puis selon moi, surtout celui-là, ça demande une confiance et un respect hyper profond pour l'autre personne. Moi, ça ne fait pas partie. Tu sais, je pourrais jouer le jeu. Avec Carl, je pourrais jouer le jeu de.
Faire comme si.
Parce que je le sais qu'à la seconde où je dis hey, non, ça c'est trop loin, ça va arrêter. Je le sais qu'avec lui, je peux lui faire confiance et tout ça. Est-ce que je ferais venir un inconnu chez moi ou un gars que j'ai vu une ou deux fois pour jouer ce jeu-là? Non. Non. Parce que si je m'abandonne à ce point-là, il faut que.
Il faut que la confiance soit vraiment ultime.
Parce que là, si on rentre dans le fantasme du viol, c'est carrément que je vais me débattre, que je vais crier non, que, tu sais, il va y avoir de la brutalité physique qui va être impliquée. Donc, moi, le niveau que je suis capable d'accepter de ce côté-là, j'ai besoin de ça. Il y a des personnes qui vont juste aimer ça, puis ils vont le vivre, puis ça leur appartient à eux. Puis là, on s'entend. Je suis pas en train de dire que les victimes de viol, non, c'est pas ça. On est dans un autre jeu. On est dans un jeu de consentement mutuel sur ce qui est en train d'arriver. Il y a un consentement mutuel sur les limites qui sont établies. Il y en a qui vont aller vraiment dans du hardcore borderline real, mais la personne, l'autre personne, a toujours la possibilité d'arrêter ce moment-là.
T'sais, on utilise ce mot-là, mais ce n'est pas la réalité parce que les deux ont donné leur consentement.
Un consentement, puis à partir du moment où un des deux cesse de consentir à ce qui est en train de se passer,
ça s'arrête.
C'est vraiment, il y a une nuance là-dedans. Là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui justement ont ce fantasme-là à cause de la perte de contrôle que ça implique, mais ce n'est pas des gens qui veulent se faire violer.
Exactement. Il faut faire la différence entre les deux.
Quand tu as le fantasme, c'est que quand tu as le fantasme dans ta tête, c'est que tu rêves d'un scénario, mais le scénario est établi en fonction de tes limites à toi. tu ne vas pas dépasser tes limites dans ta tête.
Ça, c'est clair.
Ton fantasme, il peut aller vraiment, vraiment très, très loin. Ça reste que c'est un fantasme, puis c'est un fantasme qui est dans ta tête selon tes limites, puis ce fantasme-là, il t'appartient, puis tu as le droit de l'avoir. À faire la nuance, tu sais.
Oui. C'est une nuance qui est importante à faire quand même là, pour quand,
oui,
parce que c'est pas. Il faut comprendre que ça reste dans un jeu, même si que les personnes qui sont victimes de ça dans la vraie vie, là, c'est pas, c'était pas un désir, il n'y avait pas de consentement, il n'y avait pas, c'est autre chose.
Ouais. Non, exactement. Fait que c'est vraiment, moi, ça reste toujours un jeu dans le respect. Puis si j'ai un once de doute que la personne qui est avec moi ne me respecte pas, j'irai même pas là. Je me rendrai pas à ce point-là vulnérable à quelqu'un qui a pas de respect pour ma personne puis qui comprend pas la vulnérabilité dans laquelle je me mets.
C'est quoi les plus gros bénéfices que ça t'a apporté personnellement de découvrir cette partie-là de toi?
Beaucoup de confiance en moi. Beaucoup de confiance en moi. Tu sais, j'ai vécu quand même une relation difficile avec mon ex. Au niveau de l'image corporelle, beaucoup, beaucoup aussi. Tu sais, je ne suis pas une petite fille mince, full fit, crossfit, puis ces choses-là. Et physiquement, bon, ben, tu sais, au niveau de mon corps, je me sentais comme pas belle, pas désirable et tout ça. Donc, de sentir que non seulement j'étais désirée, mais qu'il y avait un côté un peu animal à ce désir-là, c'est là que c'est venu beaucoup me chercher. J'explore beaucoup mon côté dominante parce que justement, pour être dominante, faut que tu aies l'attitude. C'est toi qui es en contrôle, c'est toi qui... mon petit
faut que tu exudes cette
confiance-là. Puis c'est qu'à un moment donné, tu sais, ils disent « fake it till you make it », fais semblant jusqu'à ce que tu sois rendu là. Bien, à un moment donné, c'est que tu ne peux pas la faker, cette confiance-là. Il faut vraiment que tu l'adoptes. Il faut vraiment que tu fasses « OK, là, c'est moi, c'est ci, c'est ça, c'est pas toujours facile. » Puis, mon soumis de Québec, c'est un gars de 6 pieds 2.
OK.
C'est pas un 2 de pique non plus. C'est un gars hyper manuel, puis quand même une bonne carrure et tout ça. Puis de me dire qu'il y a un gars qui mesure 5 pouces de plus que moi, qui va rentrer chez moi, puis qui va se mettre à genoux, puis qui va falloir que, tu sais, que je sois...
C'est ça, faut que tu...
Faut que je fournisse. Tu sais, si je veux que lui reste mon soumis, il faut que moi, je sois la dominatrice que lui recherche. Tu sais, en ce moment, sur Internet, c'est facile, c'est facile d'imposer quelque chose, mais physiquement, quand il va être devant moi, il faut que mon attitude, il faut que mon aura soit là, comme... Faut pas qu'il sente que je suis insécure. Parce que sinon, le rapport est un peu débalancé, si on veut. Fait que je travaille beaucoup là-dessus, puis je trouve que ça m'amène vraiment beaucoup de satisfaction de vraiment me sentir à la hauteur de moi-même. Pas juste, tu sais, je veux être à la hauteur pour lui, mais je veux être à la hauteur pour moi, pour me sentir comme t'es capable. T'es capable d'être cette femme-là, d'être cette femme confiante-là, solide, dirigeante, qui prend les choses en main, qui prend les décisions, puis que c'est ça, puis c'est pas comme ça, puis si t'es pas content, ben je t'attache dans un coin, puis tu fais ça pendant 1 heure et demie, puis si mon chien vient te sentir le cul, là. Tu sais, tu vas vivre avec ça, là. C'est ça.
Mais écoute, on arrive proche de la fin de l'épisode. J'aurais une dernière question avant qu'on fasse la finalité. T'as-tu un nom de dominatrice ou un nom de soumise?
Nom de soumise, non. Mon nom de dominatrice, c'est un peu un running gag, OK? Parce que il y a longtemps, puis récemment, j'ai revu le gars. On avait un running gag ensemble parce que lui, il aimait le bacon beaucoup, beaucoup. Puis mon surnom, c'était rendu Miss Piggy.
OK.
Parce que j'avais trouvé une image de Kermit qui était en train de faire ses affaires à Miss Piggy, puis qui disait « Il est à qui le bacon? » Fait que tu sais, on avait comme ri de ça. Fait que mon surnom, c'était Miss Piggy. Et sur un forum de monde qui parle de sexe puis de sorte de kink, à un moment donné, je disais que un de mes fantasmes, que j'ai fini par réaliser d'ailleurs, c'était de peguer un gars. Okay. Dans le fond, c'est un strap-on, puis ben, tu
pénètres la personne dans ses annales.
Exactement. Donc, j'avais ce fantasme-là, puis Il m'avait demandé de voir une photo de mon visage, tu sais, comme t'as l'air de quoi. Puis j'avais envoyé une photo, puis tu sais, une petite photo, parce que je suis juste normale, mes petits cheveux roux, un petit sourire, puis t'as l'air beaucoup trop sage pour une fille qui veut faire ça. Puis il dit, ton surnom maintenant, ça va être Miss Peggy. Au lieu de...
Ah, fait qu'un jeu de mots, hein, mais... Oh!
C'est ça, puis j'avais trouvé ça drôle que lui sorte ça, puis qu'il y en a un autre qui m'appelait Miss Piggy, puis tout ça. Fait que, ben, avec mon soumis, mon surnom, c'est Maîtresse Peggy. Fait que, c'est très drôle. C'est resté, puis j'ai fait, tu sais quoi, j'ai été baptisée comme ça, ça va rester. Fait que mon surnom, c'est Maîtresse Peggy.
Mais j'aime ça, ça.
J'adore, parce que ça part d'un running gag qui est vieux de plus de 10 ans. Que là, j'ai une autre personne qui me sort quelque chose qui ressemble à ça. Puis, dans le fond, mon adresse courriel que j'ai créée, parce que je suis sur le site de rencontre JALF, qui est joué avec le fantasme. D'ailleurs, quelqu'un qui veut explorer, ben c'est un bon site Internet parce que c'est vraiment, il y a toutes sortes de gens, là. Il y a des gens qui sont là pour des. C'est un site de rencontre de sexe, là. Tu vas moins là si tu veux une relation long terme. Non pas que c'est impossible, mais c'est un petit peu moins.
C'est pas pour ceux qui cherchent ça, mettons.
C'est ça, exactement. Tu peux trouver, mais c'est pas le but premier de ce site-là, même si tu as l'option pareil. Mais le but, c'est ça. C'est du monde qui veut se rencontrer, explorer des fantasmes que tu trouves peut-être pas facilement dans la vie de tous les jours. Donc, tu es capable de regrouper. Parce qu'ils te le demandent, c'est quoi tes fantasmes? Puis là, il y a une liste longue comme le bras. Fait que tu cliques, toi, comme qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui t'intéresse pas. Fait que tu es capable de voir les gens qui ont des fantasmes similaires aux tiens. Puis, d'avoir des conversations, puis tu sais, de créer des rencontres. Il y a des forums, il y a des salles de caméra où on peut se parler, il y a les mardis puis les samedis sexités où c'est carrément du monde qui se met tout nu puis qui font du sexe devant la caméra, puis il y a du monde qui regarde, puis tu sais, il y a vraiment de tout, là. Il y a vraiment de tout.
Sur ce, malheureusement, il faut finir le podcast ici. Est-ce que, tu sais, moi, j'aime beaucoup finir avec un conseil / recommandation de la semaine.
Alors, ma recommandation de la fin serait « Sois pas cheap ».
Sois pas cheap.
Puis, tu sais, explore. Vas-y. Moi, je planifie d'aller dans des clubs échangistes avec Carl parce que, justement, c'est un très, très bon ami. Puis, on se respecte mutuellement. Puis, c'est quelque chose qu'on veut faire, aller dans des endroits où il va y avoir plusieurs personnes, aller avec des couples, des choses comme ça. Je m'autorise à le vivre, puis je m'autorise, mais je me respecte là-dedans parce que je ne vais pas aller n'importe où, je vais apprendre à connaître la personne, je connais mes limites, j'explore. Fait que, sois pas cheap. Respecte-toi, puis sois pas cheap. Si tu achètes de quoi qui t'intéresse, t'sais, mets l'argent, économise un petit peu plus longtemps, mets l'argent parce que des jouets cheap, ça peut se détruire facilement.
Tu peux te blesser aussi.
Oui, puis sois pas cheap avec le monde non plus. Hein?
Oui. Sois pas cheap. C'est ça. Moi, je suis d'accord avec ton conseil. Moi, j'ai pas vraiment de conseils par rapport vraiment à la situation qu'on a parlé aujourd'hui parce que c'est pas un monde que je connais vraiment beaucoup, mais je vais donner le conseil que je peux. Si vous êtes fatigué, mais que vous n'arrivez pas à dormir, mettez-vous le film 50 Shades of Grey, puis je vous jure que ça va régler votre problème.
Ou bien tu t'endors après 15 minutes, ou bien tu te roules la bille pendant le film, puis ça t'aide à t'endormir après.
Exactement. C'est un win-win. Win-win. Et win-win. Et on se retrouve la semaine prochaine alors qu'on vous apprend comment sortir dehors en n'oubliant pas d'avoir mis ses vêtements?
Je ne sais pas si je vais être capable.